Vous parliez tout à l'heure, vous avez abordé un tout petit peu la situation des femmes. J'imagine que soit en parlant avec votre amie Tania, soit d'autres femmes que vous connaissez, vous avez pu rencontrer, vous avez découvert quelle est la vie de tous les jours des femmes russes ou soviétiques. Je pense que ça ne touche pas que celle de Moscou. Alors, bon, nous, on est un petit peu informés, on en a déjà parlé un peu sur remue-ménage, la situation des femmes en Union soviétique. On connaît, par exemple, les problèmes de l'avortement, mais j'imagine que vous avez tout à coup découvert l'ampleur d'une situation qui est loin d'être drôle pour la femme soviétique.
Alors ça, c'est une des choses qui m'a le plus frappée en 3 mois. La souffrance incroyable des femmes soviétiques. Tout le quotidien, tout ce qui est dur, repose sur leurs épaules. Il y a un immense besoin de tendresse, d'être aimée, et auquel personne ne répond et qu'elles expriment. Oui. Et puis, il y a tous ces rapports de force entre hommes et femmes, ces mondes séparés, l'absence des hommes, la présence perpétuelle des enfants, le travail. Elles ont souvent les travaux rudes, les travaux lourds. Simplement parce qu'elles boivent moins que les hommes, donc elles sont plus fiables, elles travaillent mieux. J'ai souvent eu l'impression, en voyant le marasme qui régnait dans ce pays, que s'il tient encore debout, si cette économie qui marche malgré tout, on ne sait trop comment, marche quand même, c'est grâce aux femmes. Tout le poids repose sur leurs épaules.
Parce qu'officiellement, donc, j'imagine bien sûr que l'égalité homme-femme existe selon la loi soviétique. On a de la peine à imaginer le contraire. Mais alors, dans la pratique, à part justement partager les tâches les plus lourdes comme éboueuse, chauffeur de camion, et j'en passe dans l'industrie, etc., est-ce qu'elles vivent comment cette soi-disant égalité légale ?
Je ne sais pas bien si elles en ont conscience, finalement. La légalité, c'est une chose, c'est des textes, mais ce n'est absolument pas vécu. Les mondes des hommes et des femmes m'ont semblé très, très séparés, un peu ce qu'on peut retrouver de temps en temps en Afrique du Nord. La femme peut être toute puissante à l'intérieur. Les babouchkas sont toutes puissantes. La grand-mère, comme je vous disais tout à l'heure, la grand-mère qui est un vrai tyran, mais qui en même temps a un cœur d'or et vaut des services invraisemblables. C'est un personnage très fréquent de la société soviétique. Il est très utile d'ailleurs d'avoir une grand-mère. C'est la grand-mère qui a le temps de faire la queue, de s'occuper des enfants, etc. Mais les femmes vivent entre elles, s'entraident les unes les autres, ont des amis très chers. Le monde des hommes, elles le rencontrent de temps en temps, mais elles n'en font pas vraiment partie réciproquement.
Dans le sens que parce que c'est de toute façon très séparé de fait, alors elles essayent de s'organiser entre elles pour trouver une autre chaleur quelque part.
Voilà, on dirait qu'elles ont un peu baissé les bras en se disant, de toute façon, eux c'est autre chose, ils ont d'autres cases dans la tête, on ne peut rien faire avec eux, organisons-nous entre nous. J'ai eu cette impression, peut-être que ça va changer, hein. S'il y a une ou deux générations, ça devait certainement être pareil ici. Et les femmes m'ont semblé être un des facteurs de changement principaux de ce pays, malgré tout. Mais la revendication féministe d'égalité du travail, de partage des tâches, etc., n'existe absolument pas. Absolument pas. Au contraire, beaucoup de femmes ont envie de revenir à la maison, d'abandonner leur travail. Si elles pouvaient rester à la maison pour s'occuper de l'enfant, etc., elles le feraient. C'est plutôt cette revendication-là. C'est la revendication de la coquetterie aussi. Pendant des années et des années, on a refusé cet aspect luxueux des choses. Alors on dirait qu'elles veulent par leur corps, par leur habillement, par leur maquillage, lutter un petit peu contre cette grisaille de la vie soviétique, contre l'uniformité. C'est plutôt ce type-là. Mais peut-être n'est-ce qu'un premier pas vers une autre revendication.
Vous l'avez vécu comment, très concrètement, par des petites anecdotes, cette façon qu'elles ont d'essayer de se retrouver entre elles pour vivre mieux dans ces difficultés?
Alors, déjà, on raconte tous ces problèmes aux copines, on se téléphone beaucoup. Les hommes aussi téléphonent beaucoup. On téléphone beaucoup plus qu'ici. Le téléphone coûte sur Moscou 2 kopecks, c'est tout. Hein. La conversation peut se prolonger aussi longtemps qu'on le veut. Alors, on téléphone aux copines pour raconter le dernier plat qu'on a fait, mais pour raconter aussi la rumeur qui est en train de courir, ou simplement pour dire bonjour, puis on se rencontre beaucoup, elles vont boire le thé ensemble, mais aussi, surtout, on se rend d'énormes services. telle va faire la queue pour le pain, telle autre fera la queue pour le lait, on prend les offres des unes des autres, on se donne des conseils. Quand une femme accouche, c'est ses amis qui viennent l'aider, qui l'accompagnent à l'hôpital, etc. Dans le métro, les femmes se lèvent pour des femmes plus âgées, etc.
Pendant que les hommes sont assis.
Quand les hommes sont assis, bien entendu.
Et puis vous, là-dedans, c'est un monde dans lequel vous étiez bien. C'était par rapport à notre vécu, à notre femme ici en Europe et en Suisse. C'est un vécu dans lequel vous étiez à l'aise?
Pas vraiment. Je pense que si j'étais restée plus longtemps, je me serais adaptée. J'aurais pris des critères différents. Mais non, les femmes, par exemple, se touchent beaucoup, s'embrassent, se donnent la main. On va beaucoup au bain en Union soviétique, qui sont des sortes de sauna. Et là, on se fouette les unes les autres pour activer la circulation sanguine, on se masse. Et ce contact corporel, physique, on l'a plus tellement entre femmes ici. Ça, c'est quelque chose face auquel je n'étais pas vraiment à l'aise. En même temps, c'était très touchant. Mais non, honnêtement, je n'étais pas très à l'aise par rapport à ça. Par contre, la solidarité qu'il y avait entre ces femmes me touchait beaucoup. La chaleur entre amies, finalement, la tendresse, elle était là.
Est-ce qu'elles essayaient, elles, de vous convaincre à participer à leurs histoires?
Même pas, parce qu'elles n'avaient pas vraiment... Alors que les hommes, en tout cas mes amis hommes, étaient très conscients que j'étais une femme différente. Il n'éprouvait pour moi vraiment aucun sentiment qu'on pourrait trouver proche de la séduction. Vraiment aucune séduction de ma part pour je suis un personnage un peu hybride, un copain, ni un homme, ni une femme, une libérée, svabodna, comme ils disent, avec un petit air un petit peu méprisant, puis un petit peu curieux en même temps, me raconter des histoires qu'on ne raconte pas aux femmes. Les femmes, par contre, n'étaient pas vraiment conscientes de cette différence. Comme j'étais femme, j'étais intégrée. Elles étaient très, très douces, très gentilles avec moi, me rendant toutes sortes de services, essayant de m'initier justement à la vie quotidienne, m'emmenant faire les courses, etc. Et non, peu de questions sur comment vivent les femmes ici. L'impression que c'est tellement loin et qu'elles n'imaginent même pas quelle peut être notre liberté.
Mais donc, alors, c'est aussi peut-être vous qui parfois pouviez provoquer la discussion par rapport à ce que vous ressentiez face à leur façon de vivre à elles, par exemple leur rapport à l'intérieur du couple.
C'était toujours relativement difficile parce qu'on touchait des choses sensibles et je n'avais pas envie de passer pour une donneuse de leçons. J'en ai parlé, bien entendu, avec mon amie Tania, chez qui nous vivions, surtout du rapport qu'elle avait, elle, à son mari. Un rapport que j'ai vu chez mes grands-parents ici, c'est-à-dire que dès que l'homme arrive, la femme se met à cuisiner à n'importe quelle heure, lui rend main service pour tout ce qui s'agit, pour tout le quotidien, etc. Et c'est vrai qu'au niveau du quotidien, justement, il n'y a pas de partage des tâches, les mondes sont séparés. Mais elle trouvait intéressant ce qu'on disait, mais je n'avais pas l'impression toujours que c'était envié. Finalement, elles estimaient aussi que c'était un monde de liberté qui n'était qu'à elles, que ce monde des copines, des amis, des moments de tendresse partagés. Et j'avais l'impression qu'elles n'avaient pas vraiment envie que les hommes partagent ce monde-là non plus. Et que nous avions perdu quelque chose par rapport à ça. Alors, quelle était la part de l'envie et de montrer que chez soi, il y a aussi quelque chose de bien? Quelle était la part de véritable, de ce qu'elle possède vraiment? Je ne sais pas. Il y a des envies, oui, mais elles ne vivent pas vraiment nos responsabilités, par exemple.
Mais en même temps, elles n'ont pas vraiment le choix, parce que, d'après ce que vous avez décrit, elles ont aussi une telle insécurité, une nécessité de survie permanente qui fait que, bon, même si elles avaient envie, par exemple, de quitter l'homme qui ne leur convient pas, est-ce que vraiment elles peuvent le faire?
Pas vraiment. Il s'agirait déjà de trouver un appartement. À ce propos, quelques anecdotes. nous avons connu plusieurs couples divorcés où l'homme avait retrouvé une amie, voire avait épousé une autre femme. Et le couple ancien et le couple nouveau vivaient ensemble parce qu'il n'y avait pas d'appartement. Autre exemple, un de nos très beaux amis nous invite chez lui un soir. Sa femme était spécialement triste, très jolie femme, très aimable avec nous, que nous aimions beaucoup. On lui demande ce qui se passe, elle dit « nous venons de divorcer ». On était un peu surpris, les bras nous ont tombés. Alors naturellement, avec mon réflexe d'européenne occidentale, je dis « mais vous ne vous entendez pas ?» Elle dit « pas du tout, on s'aime beaucoup ». Ils avaient deux enfants en effet, ils s'aimaient beaucoup. C'était simplement pour obtenir un appartement à Moscou. Ils s'étaient divorcés et Vania, l'homme, avait épousé, noce blanche, une femme pour une grosse somme d'argent, une femme moscovite, qui lui permettait à lui et à sa famille de vivre à Moscou. Mais pour sa femme, qui s'appelait aussi Tania, quelle insécurité. S'il arrive quoi que ce soit, que l'homme meure, eh bien, l'héritage, entre guillemets, va à cette femme avec laquelle il ne vit pas. Des situations comme ça, il y en a des centaines. Hein. Notre ami Sacha, chez qui nous vivions, a vécu pendant 4 ans avec sa première femme et sa seconde femme. Et sa première femme l'aimait toujours, je précise. Donc on imagine les drames raciniens, cornéliens qui se vivent et qui sont peu imaginables ici. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas vraiment le choix et que quand on n'a pas vraiment le choix, on cherche aussi ce qui est bien chez soi.
Parce qu'en plus, vous en avez parlé un tout petit peu plusieurs fois, pour une façon de survivre, c'est entre autres de créer un réseau de contact avec les gens. Ce n'est pas tellement d'avoir de l'argent, mais c'est d'avoir des relations. Et effectivement, une femme est souvent liée aux relations de son mari ou de son compagnon.
Bien sûr. Elle a elle-même son propre réseau. Mais le réseau technique, je dirais... loyer, place de théâtre, nouveaux appartements, c'est plutôt un réseau déplacement, c'est un réseau masculin. Et c'est clair que les employeurs sont pratiquement toujours masculins aussi. Sortir d'un réseau, c'est n'être plus rien, c'est ne plus exister. Comme ici d'ailleurs, les gens qui ont le plus de difficultés à vivre sont les personnes âgées et seules, et les femmes seules avec enfants. Mais on pourrait imaginer qu'un pays communiste prenne en charge par un service social ces gens-là, pas du tout, ce sont des... Ils vivent avec des rentes misérables. Bon, les vieillards qui se sont illustrés pendant la Grande Guerre patriotique ont certains droits, comme celui bénéficient par exemple du droit d'aller dans des magasins où on trouve plus de café, plus de saucisses, etc. Et toute leur famille au bénéficie, nouveau le pouvoir des babouchkas. Mais autrement, c'est très très dur en effet. Le réseau, c'est quelque chose de fondamental. On n'est rien sans le réseau. En Union soviétique et à Moscou en particulier.
Donc la femme ou l'homme va toujours calculer dans ses relations affectives le poids de sortir du réseau.
Bien sûr, bien sûr. Bon, j'ai remarqué à part ça, tous les jours que nous avons croisé, nous en avons croisé beaucoup, qu'à part ce réseau, même si la personne fait partie du réseau, chacun a quand même une sorte de confident, un ami, une amie de cœur. Et cette personne-là est quelque chose de fondamental, plus important souvent que le conjoint. Et pour cette personne-là, on ferait n'importe quoi, on est prêt à tout. C'est quelque chose de différent. Le réseau, ce n'est pas seulement affectif. Le réseau, c'est aussi des rapports. Je te donne telle chose, mais en échange, tu me donnes telle autre. Hein. Il y a un rapport commercial dans le réseau. Thank you.
Vous êtes toujours sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8, et nous sommes en compagnie d'Edith Néglé, qui a passé 3 mois à Moscou et qui a découvert le quotidien des femmes moscovites, des hommes et des femmes moscovites. Pour revenir à ce qui était la situation dans votre deux pièces avec vos amis, sur la surprise qu'ont pu avoir les gens que vous rencontriez, vos amis avec qui vous viviez. Par exemple, votre petit garçon est tombé malade et il a fallu se préoccuper de savoir comment vous alliez le guérir alors qu'il avait de la fièvre, etc. Alors, vous avez des réflexes et puis votre ami Daniel en avait un autre. Comment ça s'est passé?
Alors ça, c'est très, très, très difficile. On pourrait parler de la médecine soviétique qui est vraiment... Alors là, une médecine du tiers-monde. Hein, il y a un manque de médicaments invraisemblables. Les médicaments les plus simples manquent de l'eau salée pour nettoyer le nez, des aspirines, des choses comme ça. Mon fils avait des otites sans cesse et il fallait des antibiotiques. Heureusement, on en avait emporté avec nous, mais pas assez. Et les antibiotiques, on ne les trouve pas. Alors de nouveau... Il s'agit de téléphoner, de faire fonctionner le réseau, quelqu'un, une amie qui est amie d'une pharmacienne ou d'un médecin, etc. Ou un médecin, par exemple, Sacha a réussi à faire venir, parce qu'il travaille au journal à Gagnoc, le pédiatre de la principale clinique pédiatrique de Moscou, etc., qui a ausculté notre fils. Là, le réseau. Mais je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, la médecine. Comme il n'y a pas, comme tout est au déficit, on travaille avec les remèdes de bonnes femmes, les remèdes de grand-mère. Alors, pour une otite, dans une petite ville à 200 km de Moscou, une femme pédiatre, diplômée, etc., nous a conseillé le plus sérieusement du monde d'envelopper chaque soir les pieds de notre fils dans des feuilles de chou, ce qui est très simple. De laisser la nuit. On a reçu des conseils, mettre des gouttes de vodka dans les oreilles, toujours la vodka, tremper les pieds de Mathieu dans la moutarde, etc. Des remèdes de bonne femme. Et ma foi, on a la foi ou pas aux ces remèdes-là. Quand il n'y a rien, on essaye de faire quelque chose. Alors, on comprenait aussi leurs réflexes. Ce qui était difficile pour moi, c'était que lorsque je n'appliquais pas ces méthodes... qui ne me convainquait naturellement pas vraiment, on me prenait vraiment pour une très mauvaise mère, une très très mauvaise mère. Et c'est difficile de passer aux yeux des autres pour une très mauvaise mère.
Donc en fait, il y avait vraiment de la réprobation disant « Non mais c'est impossible, tu ne peux pas ne pas vouloir soigner ton enfant. »
Tu ne soignes pas ton enfant, tu vas le laisser mourir. Elle est une immense méfiance vis-à-vis des antibiotiques. J'ai empoisonné mon fils, vraiment. Il y a tout un... De nouveau, comme il n'y a pas assez de médicaments et que certains médicaments sont de mauvaise qualité, il y a toute une méfiance vis-à-vis d'un monde très technologique. Nouveau, au pays du marxisme, c'est amusant. Et j'ai pris d'abord ça pour une sorte de retour à la nature. Nouveau, en occidental, on imagine les petites graines, la doctoresse Kouzmine, donc sèche. Et ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose qui date de corps avant. Il y a encore des gens... qui ont des pouvoirs mystérieux, c'est l'admiration pour la sorcière, pour le magicien, etc. Ça relève de ce type de phénomène.
D'évoquer une femme que vous avez rencontrée à la campagne. Donc vous avez aussi été voir les femmes à la campagne en dehors de Moscou. Qu'en est-il de la vie des gens à la campagne? Est-ce que c'est la même chose que dans la ville ou c'est encore plus problématique?
C'est beaucoup plus problématique. En tout cas, beaucoup plus problématique qu'à Moscou. Hein, on parle de Moscou, là. qui est quand même la capitale, où on trouve, si on a un réseau nouveau, on trouve quand même de quoi vivre. Les gens ne meurent pas de faim. La campagne, paradoxalement, est un endroit où la vie pratique, l'alimentation, par exemple, est un problème invraisemblable. Dans les villages qui sont à 200 km de Moscou, le lait ne se trouve que sur ordonnance dans les pharmacies pour les bébés. Le village où nous étions avait une minuscule épicerie, dans l'épicerie, quelques paires de bottes au plastique, quelques casseroles, pas un produit frais, des boîtes de sardines, c'est tout. Au comptoir, une espèce de petite pomme qui sortait d'on ne sait où, qui paraissait vraiment être dans un décor qui ne lui convenait pas du tout. Et puis les femmes du village qui nous ont tout de suite abordées, alors qu'on était au magasin, en nous disant « allez lui dire à Gorbatchev, allez lui dire notre misère, allez lui dire comment c'est ici, où elle est la perestroïka ?» Et ces femmes, en effet, ont une vie invraisemblablement dure. D'abord, au niveau justement de la pratique, elles vivent de la cueillette, beaucoup. Hein, faut encore les confitures en allant chercher des baies des bois. On fait des conserves de champignons avec les champignons qu'on a cueillis. On met des concombres en conserve. On fait toutes sortes de jus de fruits en conserve. Il n'y a pas de viande dans le frigo. Il n'y a pas de yaourt. Il n'y a pas de fromage. Et on est à la campagne. Ça, c'est le côté quotidien. En plus, ces femmes sont seules. C'est-à-dire que les rares hommes que nous avons pu voir à la campagne étaient des hommes soit malades, soit complètement usés par l'alcool, ou des tarés qui ne peuvent pas aller aux villes. Tous les gens qui sont la force de travail habituellement de la campagne partent vers la ville et la campagne se meurt. L'église d'ailleurs était aux ruines. Et quand on posait à ces femmes la question de qu'est-ce qui vous manque le plus, si vous pouviez faire un vœu, que voudriez-vous? Nous, on s'attendait au magasin mieux achalaudé, des hommes qui restent à la campagne. Non, elles ont répondu, il faut que l'église se rouvre, il faut nous rendre le pop, parce qu'on ne peut rien faire, on n'a plus d'âme, ils nous ont volé notre âme. L'église, d'ailleurs, va bientôt se réouvrir dans ce village. Mais dans la campagne, sous l'église, je pense que le pouvoir ne fera rien. Et ça, c'est... Je dis que les femmes avaient tout un côté... De progressistes quand même, elles vont vers l'avant dans ce pays, elles me semblent une force de progrès, mais en même temps, c'est la force de l'Église sur les femmes du pouvoir patriarcal est encore très 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 présente, hein. Il y a ces deux côtés. C'était ça qui était très difficile et passionnant en même temps dans cette société, c'est que chaque fois qu'on avait l'impression d'avoir compris quelque chose, d'avoir saisi quelque chose, son contraire arrivait immédiatement, bouleversant toutes nos théories. Et je dois dire qu'après 3 mois de séjour, je ne sais plus vraiment ce que je pense de ce pays.
Même vos amis.
Tout à fait, tout à fait.
Mettre tellement de choses, hein, tous ces slogans qu'on a vu fleurir sans arrêt.
Il y a bien d'autres choses, bien évidemment, qui ont encore surpris Edith Hussley et Edith Neglé dans son séjour à Moscou. Entre autres, par exemple, elle m'a parlé de ce découragement que beaucoup de Russes à Moscou ressentent devant les changements qui sont si lents. Beaucoup se sentent humiliés parce que, comme elle nous l'a dit, ils s'imaginaient être une grande puissance et puis, eh bien, ils constatent qu'un peu comme avec fatalité, c'est comme si le peuple russe avait été fait pour vivre sous la botte. Et tout le monde a un peu cette phrase à la bouche, je vous l'avais bien dit, c'est que ça que nous vivrions. Mais quand même, elle m'a fait part d'une note d'espoir. Bon, bien sûr, par exemple, les amis baltes qu'ils ont rencontrés ou les gens de Géorgie qui, eux, ont plus l'espoir de faire changer les choses et sont mieux organisés surtout. Mais à Moscou, elle a rencontré des adolescents dans un collège. Et là aussi, autant les femmes lui ont donné cet espoir aussi parce que c'est, selon elle, comme elle nous l'a dit, le moteur certainement d'un changement. Eh bien, les adolescents, de la même façon, dans les classes qu'elle a visitées, sont très intéressés par la politique de leur pays. Et ont envie de voyager, ont envie de faire changer les choses. C'est vrai que chez nous, des jeunes de 17 ans intéressés à la politique, c'est quand même assez rare. Et elle a l'impression que cette première génération qui n'a pas connu la peur de la répression, eh bien, peut-être c'est grâce à elle que les choses vont changer. Et d'ailleurs, elle a organisé un échange entre une classe soviétique russe de Moscou et puis des élèves de la ville de Lausanne. Ceci se passera en automne de cette année 90 et nous espérons peut-être pouvoir échanger avec ces élèves. Pourquoi cette classe? Parce qu'elle s'est aperçue que ces élèves parlaient très très bien le français et que donc ce pourrait être un échange très positif entre ces deux classes de collégiens. Merci Edith Nedgley de nous avoir fait partager tout ça. Il y aurait encore beaucoup d'autres choses à discuter, le racisme, la rumeur, les slogans qui ont trompé tout le monde. Mais pour aujourd'hui, nous nous arrêterons là. Merci Edith Nedgley.
Комарики мои, комарики, мушки маленькие. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Комарики, мушки маленькие, всю ночку на ложечку прыгули. Ай-ай-ай. Ой-ой-ой. Всю ночку на ложечку прыгули, а мне молодой покоя не дали. Ой-ой. Кошка подошел, шиту прямо за навеску приподнял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Шит прямо за навеску приподнял. Здравствуй, милая, хорошая, сказал. Ай-яй-яй-яй. Здравствуй, милая, хорошая моя, хорошо ли почивала без меня? Долго с вечера стояла я в дверях, потонула я молоденько в слезах. Ой, тебя, милый, поджидаючи, свою долю проклинаючи.
Жан Бишевская. Vladimir Vysotsky est mort le 25 juillet 1980, mais sa voix continue à fouiller notre âme et pose des questions auxquelles nous devons trouver des réponses. C'est Marina Vladi, une comédienne française que vous connaissez sûrement, qui écrit un petit texte à propos de Vladimir Vysotsky, qui est un chanteur russe, qui était son époux. Et je pense, j'avais envie de vous lire ce qu'elle écrivait à propos de ce chanteur et son mari. « Nous rions derrière le chagrin, dit-elle, car l'humour est là, provoquant. Nous découvrons, comme dans une chronique, la vie quotidienne, les joies, les peines, les espoirs des contemporains de Vladimir Vysotsky. » Il pose en quelques mots les problèmes les plus divers. Il est passé parmi nous comme une météore, mais il a laissé une énorme somme d'informations sur son époque. Il a tout pressenti, vécu, souffert, retransmis par son art. Aucun pilote ne doute qu'il n'ait connu l'ivresse du vol. Les marins sont prêts à jurer qu'il connaît toutes les mers de la planète. Et il n'y a pas un sportif qui ne soit persuadé qu'il n'ait pratiqué justement sa discipline. Sa tendresse et sa pitié sont infinies pour évoquer le monde paysan. Il nous enchante avec ses contes surréalistes. spécialiste, ses balades sur l'univers souterrain du milieu. Des cours, des rues sont passées dans le folklore national. Ceux qui ont passé de nombreuses années loin des leurs, dans les camps staliniens, ne peuvent entendre ses longues plaintes, sa révolte, sans le prendre pour un des leurs. Vysotsky, qui n'avait que 7 ans à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a écrit tout un cycle de chansons sur le sacrifice, l'héroïsme, la fraternité du peuple russe pendant la guerre. Aucun ancien combattant ne doute qu'il n'ait passé plusieurs années sur le front. Ces millions de géants écoutent, pleurent et rient, réfléchissent, se sentent interpellés par les chansons de Vladimir Vysotsky. Il n'y a pas une maison sur le territoire de cet immense pays où l'on entende sa voix. Cette voix que l'on ne peut confondre avec aucune autre. Poète violent et rare, les consonances des mots s'entrechoquent et donnent encore plus de force aux cris. L'utilisation de termes presque oubliés, les images symboliques, l'emprunt au jargon, aux tournures populaires, les caractères des personnages qui vivent, se battent et luttent, le lyrisme, l'envol de ses textes sont uniques. Il compose une musique qui souligne et colore sa poésie. Ses mélodies s'accrochent à la mémoire et ne la quittent plus. Tout son génie de tragédien, sa verve de comédien, ses dons d'imitation transforment chaque chanson en spectacle complet. Il peut hurler comme un loup blessé, puis chanter l'amour avec douceur et tendresse, crier son indignation, sa colère, son désespoir, en s'arrachant la glotte ou passer d'un ton gouailleur des faubourgs au lyrisme le plus pur. Ceux qui l'ont entendu chanter, qui l'ont vu jouer, ne peuvent oublier l'émotion ressentie. Il est là et il chante au présent, le vol arrêté.
Кто-то высмотрел плот, что не спел. Потрусили за ствол, он упал. Вот вам песня о том, кто не спел. И что голос имел, не узнал. Может, были с судьбой нелады. И со случаем плохи дела. А тугая струна на лады. С незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до. Но не допел ее не дозвучал его аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно. А он шутил, не дошутил, не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, неуверенно и не спеша, словно капельки пота и спор. Из-под кожи сочилась душа. Только начал дуэль на ковре. Еле-еле едва приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до догадки, не до дна, не докопался до глубин, и ту, которая одна, не долюбил. Смешно, не правда ли, смешно. А он спешил, не доспешил, осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единою буквой не лгу, он был чистого слога слуга. И писал ей стихи на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад, и свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался, и не то не добежал бегун беглец, беглец не долетел, не доскакал, а звездный знак его телец холодный млечный путь локал. Смешно, не правда ли, смешно, смешно, когда секунд не достает, недостающее звено, и не долет, и не долет, и не долет, и не долет. Смешно, не правда ли?
Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
Vladimir Vysotsky, compagnon de Marina Vladi. Alors aujourd'hui, je vous rappelle que nous lançons en ce moment sur Radio Zone 93.8 FM une grande campagne de solidarité pour que vous nous aidiez à continuer à faire vivre notre radio, cette radio qui montre les différences avec les autres radios, cette radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas d'habitude. Alors si vous avez envie d'encourager notre travail, nous soutenir pour que nous puissions le réaliser, eh bien vous pouvez acheter une carte d'auditrice ou d'auditeur au prix de 30 francs suisses ou 100 francs français. Et pour cela, rien de plus facile, vous nous téléphonez au 50 40 51 41, je répète 50 40 51 41, 023 si vous appelez depuis Genève, 00 33 si vous appelez depuis la Suisse romande. Didi Bridgewater et Red Charles.
Take your ring, isn't it strange, you're always leaving things. Never mind, I know this room is not a home. I hope I made you feel less alone. Think of me while you run.
Please, no strange. But it's more than just another flame. There are things I believe should never be told. You're the only one I wanna hold. 'Cause it can get awfully cold.
Precious thing, you know I love you. Such a wonderful thing.
Hey, Ray, baby,
you make me dizzy. Whispering in my ear, sing my love to the night somewhere.
Dee Dee,
yes, Ray.
Keep the rain.
Oh no, baby.
Ain't it funny, right? I'm always losing faith. You're like me, you've known the road would be your home, girl. You know that. I hope I made you feel less alone.
Didi Bridgewater en compagnie de Ray Charles. Vous reconnaissez cette musique, peut-être êtes-vous déjà allé à Bali en Indonésie. C'est la musique de Bali. Depuis Bali, eh bien, vous passez le petit passage en bateau qui vous mène à Java. Et à Java, vous êtes toujours en Indonésie. De là, vous pouvez faire un saut immense jusqu'à Kalimantan, ex-Bornéo. Où est-ce que je vous mène comme ça, en vous baladant d'île en île, en Indonésie? Eh bien, je vous fais franchir la frontière entre Kalimantan et Sarawak. Sarawak, c'est, ça n'est plus du tout, même si c'est la même île, ça n'est plus l'Indonésie, c'est la Malaisie orientale. Et pourquoi est-ce que je vous emmène en Malaisie orientale? Eh bien, parce que la semaine prochaine, eh bien, nous irons en Malaisie orientale et occidentale, c'est-à-dire la péninsule qui se trouve juste en dessus de Singapour. Eh bien, nous irons en Malaisie pour parler avec Philippe Besson de l'association Helvetas, qui nous emmène en Malaisie, histoire de rencontrer une association de consommateurs et consommatrices qui essaye de contrer le développement très à l'occidental et impérialiste proposé en Malaisie. Alors voilà le sujet de la semaine prochaine, un petit voyage qui partait de Bali, qui y retourne parce que je n'ai pas trouvé de musique de Malaisie. Alors à la semaine prochaine en compagnie de Philippe Besson d'Helvetas pour parler des femmes et des hommes qui essayent de se battre contre un développement qui ne va pas, qui ne convient pas à leur pays avec CAP, Association de Consommateurs et Consommatrices. Et pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble aujourd'hui sur Remue Ménage, Radio Zone 93.8, eh bien je vous propose la compagnie de Mélina Mercouri lorsqu'elle chantait encore, lorsqu'elle n'était pas ministre de la Culture et qu'elle était une chanteuse merveilleuse.
Δώστε θερμό χαιρετισμό. Το ζεματόλαβα προχτές, προχτές πόρτες ήταν ανοιχτές, 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 κοντά σας όλη μου η ζωή.
Voilà, Remue Ménage aujourd'hui, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir été en notre compagnie. On se réjouit de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous rappelle, si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rentrer dans le clan des amis et des amis de Radio Zone et achetez-nous une carte d'auditrice au prix de 30 francs suisses ou 100 francs français en téléphonant au 50 40 51 41 023 depuis Genève, 0033 depuis le reste de la Suisse. Salut, à la semaine prochaine, je me réjouis de vous retrouver.
Να